Radyoscopie. Radioscopie.
Paul-Émile Victor.
Jacques Chancel. Nous sommes aujourd'hui encore en direct de Monte-Carlo, où se déroule, comme je vous le disais hier, le grand festival de télévision. D'ailleurs, on dit Monte-Carlo et non pas Monte-Carlo. Mon invité, Paul-Émile Victor, le nom seul évoque les grandes randonnées, on pourrait dire peut-être les espaces infinis et peut-être même ceux de Pascal, vous me le direz tout à l'heure. Depuis une quarantaine d'années, Paul-Émile Victor, vous promenez sur les glaces du pôle la petite armée des hommes de science, car on vous a suivi depuis 1934, qui est la date de votre première expédition. Mais l'aventure, votre aventure, n'a pas le Groenland pour seul domaine, seul territoire. Ici aussi, on peut organiser des expéditions, ici aussi, on peut lancer des croisades, et vous voilà maintenant, vous voilà lancé au secours de la nature. Bon, je voudrais savoir d'abord, Paul-Émile Victor, d'où vient la menace? L'homme est-il en danger?
L'homme est certainement en danger. La croisade dont vous venez de parler, c'est beaucoup plus qu'une croisade.
Parce que le mot est beau.
Oui, le mot est beau, c'est exact, c'est vrai. Et ça rappelle bien des souvenirs, ou du moins bien des souvenirs d'histoire. C'est beaucoup plus que ça en réalité. La croisade n'était pas quelque chose pour faire survivre ou pour sauver, sauf quelques âmes peut-être. Tandis que là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus vaste, puisqu'il s'agit véritablement de l'homme. Et pour ça, on n'a pas besoin de mettre un H majuscule. Le danger, à mon avis, est un danger... C'est pas seulement mon avis. Il est certain que c'est un très grand danger. Mais pas seulement de voir éventuellement la race humaine, l'espèce humaine plutôt, disparaître, mais quelque chose qui me paraît, à moi, beaucoup plus grave. Et pour l'illustrer, je voudrais donner l'exemple d'une expérience qu'avait faite Pasteur à la fin du siècle dernier pour montrer que l'être vivant s'adaptait. Dans une boîte en verre, il mettait un oiseau, très caractéristique d'un oiseau, c'est-à-dire très vivant, très virevoltant à gauche et à droite. Et au fur et à mesure que l'oxygène dans cette boîte en verre diminuait, l'oiseau perdait ses caractéristiques d'oiseau,
il devenait...
dégénérait, restait vivant, prostré dans un coin. Un oiseau prostré dans un coin sans voler, c'est un oiseau de forme, ça n'est plus un oiseau vrai. Lorsqu'on le retirait de là, il reprenait vie tout de suite. Si on mettait un autre oiseau, si Pasteur mettait un autre oiseau dans cette boîte, cet deuxième oiseau mourrait immédiatement puisqu'il ne s'était pas adapté. J'ai entendu, il n'y a pas tellement longtemps, quelqu'un dire « Mais oui, tout ça c'est très bien, toute cette histoire de pollution, etc. Mais l'homme s'adaptera, c'est justement ce que je crains. »
Vous ne voulez pas que l'homme s'adapte?
C'est-à-dire que s'il s'adapte, il s'adapterait ou il risque de s'adapter comme cet oiseau, c'est-à-dire que l'homme perde, ou la grande majorité des hommes, perdent leur... ce qui fait d'eux des hommes. Imaginez, par exemple, que dans 50 ans ou dans 500, ça n'a pas d'importance à l'échelle de l'histoire humaine, mais ce sera beaucoup moins de 500... que l'homme prenne l'habitude de vivre dans des blocos avec l'air artificiel, que pour sortir, il mettra un masque à gaz, comme nous mettons aujourd'hui un chapeau, pour ceux qui mettent des chapeaux, qu'on enseigne à, que l'homme à cette époque enseigne à ses enfants ce qu'était un papillon ou ce qu'était une fleur, comme on enseigne aujourd'hui ce qu'était un diplodocus. Imaginez une chose comme celle-là, avec naturellement une minorité de gens qui auront fait un cordon sanitaire et qui auront mis la main sur le reste de l'humanité.
Donc le drame de l'homme, c'est qu'il peut s'habituer à tout.
Je pense que c'est un des drames. S'il ne fait que s'habituer, ça n'a pas d'importance. S'il s'adapte en dégénérant, alors là, ça devient grave.
Mais l'homme se rend-il compte de tout ce qui peut lui arriver? Est-il occupé de lui-même?
L'homme
il est occupé de lui-même dans son fond intérieur, mais je ne pense pas qu'il soit occupé de lui-même par rapport à son environnement. Quoique les progrès sont quand même très nets depuis quelques années.
Les progrès sont extrêmement nets. Il y a une prise de conscience en France, en tout cas, Mais il y a une très grande différence entre un homme informé, un homme qui a pris conscience d'un problème, et un homme qui se sent concerné. En France, puisque c'est tout de même en France ce qui nous intéresse le plus, en France, la majorité des gens ont pris conscience. Mais la grande majorité ne se sent pas concernée, parce que si elle se sentait concernée, elle agirait. On agit si on se sent concerné, c'est-à-dire si on se sent soi-même en danger ou les gens que l'on aime en danger. Ben, les Français pratiquement ne font rien en ce qui concerne l'environnement, ou trop peu, ou certaines associations, par exemple, bien gentilles, se contentent de mettre une cravate verte ou une robe verte lorsqu'elles se réunissent.
C'est pas ça comme ne suffit ça, pas.
Ça ne suffit pas.
Paul-Émile Victor, êtes-vous étonné par votre propre itinéraire? Parce que si l'on regarde à peu près les choses, on s'aperçoit que vous êtes né à Genève, je crois, mais vous êtes jurassien, c'est-à-dire montagnard. Vous êtes devenu parisien par la force des choses et vous avez choisi la mer, comme si c'était une trahison.
Non, je ne suis pas du tout étonné par la route suivie, pour une raison bien simple. Je l'ai déjà dit ailleurs, je m'excuse auprès de ceux qui par hasard l'auraient déjà entendu dire. Pour une raison bien simple, c'est qu'à 15 ans, c'est déjà ce que je voulais faire. À 15 ans, comme tout...
À 15 ans, c'est déjà un peu tard, on sait ce qu'on veut faire un peu plus tôt, non? Quoique non.
Parce non,
qu'on on interroge les jeunes, on les surprend.
Voilà. Autour de moi, je pose souvent la question, c'est assez vague dans l'esprit de certains, ça paraît plus précis dans l'esprit d'autres. En tout cas, à 15 ans, je savais très exactement ce que je voulais faire. Un rêve d'enfant que tous les enfants peuvent avoir, ont d'ailleurs voyager, tout ce qu'on voudra. Mon rêve à moi était d'aller dans les régions polaires à cause du côté aventure de la chose et aussi humain parce que les Esquimaux m'intéressaient, ou et dans le Pacifique à cause du côté cocotier, sable blanc entre les doigts de pied, mais le côté humain parce que les Polynésiens m'intéressaient d'un autre point de vue, celui des grands navigateurs.
Oui,
et j'ai fait toutes mes études pour ça.
Mais vous dites les Esquimaux, quelqu'un avait dû vous apprendre qu'il y avait des Esquimaux?
Vous savez, quand on lit le capitaine Atras ou quand on lit Knut Rasmussen, on
déjà
finit par le savoir. Ah oui, bien sûr, bien entendu.
Donc déjà très dirigé avant 15 ans.
Pratiquement oui, mais non pas dirigé par quelqu'un, mais dirigé par un goût qui était celui-là. Les lectures, d'ailleurs, sont choisies toujours comme ça. Et quand je vois autour de moi un garçon ou une fille, mettons entre 12 et 15 ans, qui, dès cet âge-là, choisit certaines lectures, j'espère qu'elle ou il saura d'ici peu ce qui la conduira ou le conduira dans la vie.
Mais vous pensez qu'on peut deviner l'avenir de quelqu'un en suivant seulement ses lectures?
Enfin, non.
Je parle d'un jeune.
Non, malheureusement pas, parce que on ne peut pas dire que les jeunes soient capables, quiconque d'ailleurs, soit capable de suivre une ligne directrice. Il peut y avoir des circonstances qui les en empêchent. J'aurais parfaitement pu ne pas être ça, j'aurais très bien pu être ce que, en définitive, j'aurais dû être, c'est-à-dire suivre la voie de mon père, qui était un petit industriel du Jura et qui fabriquait des pipes et des stylos. Ben, aujourd'hui, je fabriquerais peut-être des pipes et des stylos. J'ai eu, heureusement, un père qui me comprenait bien et une mère qui me comprenait bien et, par conséquent, qui m'ont aidé plutôt que freiné dans ce domaine.
Paul-Émile Victor, vous avez quand même de la chance parce que vous êtes de ces hommes qui ont pu réaliser leur rêve d'enfant.
Sans aucun doute.
Et tout le monde n'y arrive pas.
Sans aucun doute. Et j'ai la chance aussi d'être entouré de gens qui, je crois, parmi mes amis, pour la plupart, ceux qui sont des copains ou des amis, ont plus ou moins réalisé leur rêve d'enfant. Regardez Cousteau, par exemple, ou Taziev.
Cousteau, ici, est à sa place à Monte-Carlo.
Mais bien sûr, ou Taziev, ou même Bombard, qui a toujours eu l'idée que la mer était une chose merveilleuse et qu'on pouvait très bien, non pas se défendre contre elle, mais vivre avec elle. Non, je pense qu'il y en a tout de même pas mal, mais il n'y en a pas beaucoup.
Vous venez de citer Cousteau, Bombard,
Taziev,
enfin vous, Paul-Émile Victor, vous considérez-vous tous comme des aventuriers?
Absolument.
Mais avec un grand A.
Absolument, dans le sens adventure anglais.
Oui, le vrai sens.
Le vrai sens, et j'aimerais beaucoup personnellement qu'on puisse utiliser le mot aventurier dans son sens d'origine, et non pas dans son sens péjoratif d'aujourd'hui, c'est ridicule. Un aventurier, c'est pas forcément un monsieur, sa définition habituelle. Nous sommes des aventuriers, adventurers, comme disent les Anglais, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire des gens qui, non seulement vivent dans l'aventure, mais font de l'aventure quelque chose d'enrichissant et de positif et de créateur, car c'est ça qui est important.
Mais une aventure comme celle que vous avez eue, elle est encore possible aujourd'hui? Quels sont les pays à découvrir? Lorsque vous demandez à quelqu'un où faut-il aller, la personne vous répond, si elle est bien informée, tout est découvert. Et je ne pense pas que cela soit vrai, parce qu'autrement, ça serait à désespérer.
Tout n'est pas découvert, mais ça dépend aussi ce qu'on entend par découvert.
Oui, mais la vraie découverte, c'est peut-être dans un pays très connu.
Absolument. Si le Larousse définit découverte ou exploration comme partir à la découverte de pays peu connus ou pas connus, c'est évidemment une définition qui s'applique géographiquement à des espaces bien précis. Effectivement, aujourd'hui, il n'y a peut-être plus beaucoup d'espaces inconnus à découvrir. Encore faudrait-il s'entendre. Mais l'aventure, elle n'est pas là, elle est ailleurs. D'abord, elle est dans le cœur de l'homme. Ça, c'est une des choses qu'il faut vraiment affirmer. Elle est dans le cœur de l'homme. De plus, même en ethnologie, puisque je suis ethnologue à la base, ma spécialisation, c'est l'ethnologie. L'ethnologie, aujourd'hui, ne consiste pas forcément à étudier des populations dont la civilisation est pas ou peu connue. L'ethnologie, aujourd'hui, est l'étude des populations moins développées ou différemment évoluées que les nôtres, dans leur évolution sous l'impact de notre civilisation occidentale ex-chrétienne.
Pourquoi écrivez-vous Eskimo, E-S-K-I-M-O-S?
Parce qu'il n'y a, au pluriel avec un S.
Ah, au pluriel, les Eskimos.
Oui. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison de l'écrire E-S-Q-U-I-M-A-U. C'est stupide de l'écrire de cette façon-là.
C'était avant la réforme de l'orthographe.
C'était peut-être avant la réforme de l'orthographe.
Qui date d'hier.
Exactement, j'ai lu ça dans
je
le journal.
Je ne sais pas si c'est très heureux, mais on verra ça plus tard.
Eh bien, oui, effectivement, parce que par exemple, quand on dit d'une dame, elle a l'air douce, je ne vois pas très bien comment ça peut se défendre au point de vue grammatical. L'air, c'est un air doux. Que ce soit une dame ou un monsieur, il a l'air ou elle a l'air doux.
Et si une femme vous dit « je suis tout à toi »
Ben, je ne comprends pas non plus. Moi, je préfère que ce soit tout à toi.
Moi aussi, tout à toi.
Bon, alors, pour revenir, donc, nous disions quoi ?
Eskimo, OS à la fin.
Tout simplement parce que cette orthographe ESQIMAU a été inventée de toutes pièces sans aucune espèce de raison valable par les missionnaires, suivant un mot probablement indien cri, qui se dirait quelque chose du genre de Eskimawak, ce qui veut dire mangeur de chair crue. Et ça, ils ont écrit ça, ESQIMAU, et au féminin, encore plus aberrant, Eskimo de. C'est stupide, ça n'a aucune espèce de raison d'être, et par conséquent, pourquoi ne pas l'écrire comme on le prononce, E-S-K-I-M-O, d'autant plus que c'est comme ça que ça s'écrit dans le monde entier, que c'est ainsi qu'on l'écrit sur le plan de l'ethnologie, et que ça s'entend de la même façon, mais que l'orthographe, au moins, elle est plus simple.
Paul-Émile Victor, un jour, l'homme blanc est arrivé chez les Esquimaux, OS à la fin. Était-ce le début d'une belle aventure, ou alors était-ce au contraire la fin d'une civilisation? Et cela est valable pour beaucoup de terres, et même des plus proches.
C'est certain. Notre civilisation, que j'appelle occidentale ex-chrétienne, c'est un rouleau compresseur. Mais il ne faut pas oublier que c'est tout de même la meilleure civilisation qui ait jamais été développée jusqu'ici. Ce dont nous souffrons, ce n'est pas de cette civilisation. Ce dont nous souffrons et ce dont les autres souffrent, c'est des excès de cette civilisation. L'homme a contrôlé la nature jusqu'à présent. Maintenant, il faut que l'homme commence à se contrôler lui-même pour qu'il ne continue pas dans ses excès. Donc, première affirmation de principe, en tout cas en ce qui me concerne, c'est que notre civilisation occidentale ex-chrétienne...
Vous y tenez, hein?
J'y tiens, oui. Oh, mais j'y tiens, parce que je ne pense pas que ce soit une civilisation chrétienne.
Hein. Pourquoi elle manque de générosité?
Tout simplement. Elle est basée sur le profit. Comment voulez-vous que ce soit une civilisation chrétienne?
Sur l'égoïsme, disons.
Sur l'égoïsme, parfaitement. L'individualisme, on appelle ça l'individualisme,
parce
c'est l'égoïsme.
Lorsqu'on parle de profit, on parle des sociétés, on parle des gens riches. Il faudrait également penser à ceux qui n'ont pas d'argent, et qui n'ont pas de grande société, mais qui sont tout simplement égoïstes. Et c'est une autre pauvreté.
C'est une très grande pauvreté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai l'air d'être péjoratif en ce qui concerne notre civilisation, alors que je ne suis pas du tout péjoratif, puisque je viens au contraire de dire, et je ne suis pas pessimiste, que c'est la meilleure civilisation qui a été développée jusqu'à présent. Ça, c'est certain. C'est en tant qu'ethnologue que j'en parle de cette façon-là. Il ne faut donc pas oublier ça d'abord. Ensuite, pour répondre à votre question, en ce qui concerne les Esquimaux, ça n'a pas toujours été le cas. Cette civilisation a apporté aux Esquimaux un certain nombre de points très positifs. Par exemple, Le meurtre était très fréquent et ne portait pas à conséquence pour une raison bien précise, c'est que dans l'esprit des Esquimaux, mourir consistait d'aller de cette vie où il faisait froid et où il y avait la faim, dans l'autre vie, celle du paradis des Esquimaux, où il n'y avait ni faim ni froid.
C'est-à-dire que la vie de l'homme n'était pas sacrée.
La vie de l'homme était loin d'être sacrée. Mais il faut bien dire que, comme un monsieur qui s'appelait Maratsi chez les Esquimaux d'Angmasalik, c'est ceux chez lesquels j'ai vécu.
Au Groenland.
Au Groenland, si il avait tué, mettons, ce qui était le cas, 4 ou 5, on trouvait dans la communauté que c'était beaucoup, puis alors on le trucidait à son tour. Deuxième chose, les famines.
Il n'y a plus de famine.
Il n'y a plus de famine. Or, la famine était endémique dans tout le domaine esquimau. Et il y a pas tellement longtemps, je crois que c'est en 1934 ou en 1935, que les Patlimiut, dans le nord-ouest de la baie d'Hudson, ont été décimés par la famine en 1935. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de famine. Ce sont tout de même deux choses essentielles. La christianisation chez les esquimaux ayant apporté le respect de la vie et la structure de nos civilisations économiques ayant apporté la suppression de la faim. Donc oui, voilà des choses positives.
Oui, mais Paul-Émile Victor, il y a également une chose qui est arrivée, qui a été apportée par le progrès. C'est un mot qui n'apparaissait pas dans le vocabulaire esquimau. Enfin, il n'y avait pas de mot, en tout cas, pour désigner ce fléau. C'est le mot guerre.
C'est exact. Il continue d'ailleurs à aujourd'hui, ils ont bien eu un mot qui veut dire la guerre. Tsurtsurnirk, par exemple, pour les esquimaux.
Vous parlez l'esquimau ?
Oh, oui, tout à fait couramment. Je croyais l'avoir. Évidemment, j'ai tout de même vécu 3 ans avec eux, dont 14 mois dans une famille esquimau sans en sortir. Mais je croyais l'avoir un peu oublié. En tout cas, je vais m'imaginer que je n'arriverais peut-être pas si bien à le faire. Or, au mois de mai de cette année, je suis retourné sur la côte ouest du Groenland. J'ai retrouvé des vieux copains de la côte est, d'Angmasalik, et nous nous sommes mis à parler comme avant. Oui, ce mot-là n'existait pas, continue à ne pas exister. Il a dû être inventé, bien entendu. Il ne correspond à aucun concept particulier, c'est certain. Mais par ailleurs, notre civilisation a apporté d'autres choses qui ne sont pas aussi agréables.
Alors, il y a une question qu'on peut se poser. A-t-on le droit, dans les pays dits civilisés, d'imposer le changement, d'imposer les lois, de donner des devoirs, d'imposer des droits?
Est-ce qu'on a le devoir, vous avez dit, ou le droit de... Je crois qu'à d'abord qu'on n'a absolument pas le droit d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il est bien évident que nos religions, pas seulement les nôtres, les religions, du fait même que ce sont des religions, estiment qu'elles ont, quelle qu'elle soit, la vérité, la parole de la vérité. Donc, que ce sont les meilleurs. Donc, qu'il faut les imposer aux autres, puisque c'est la meilleure religion, donc il faut que les autres soient sauvés de cette façon-là. Donc, première erreur. Deuxième erreur au point de vue civilisation, the American way of life, par exemple, ou, je ne sais pas comment on dit ça en russe, the Russian way of life, puisqu'ils sont comme ça chez eux, ils se figurent que c'est la meilleure façon, et par conséquent, on l'impose pour le bien des autres. Non, on n'a pas le droit, mais c'est un fait que c'est ainsi que ça se passe. Et ça se passe ainsi pour des raisons diverses, dont la plus déroutante est peut-être jusqu'à présent, mais il y a une réaction certaine, même chez les Esquimaux, est peut-être que les gens eux-mêmes chez qui on apporte cette civilisation ne demandent pas mieux que de la singer. On le sait bien, hein, ça se passe comme ça maintenant depuis un certain nombre de décennies. Et ça n'est jamais très bon. Par contre, il y a une réaction.
On ne peut pas non plus le refuser.
On ne peut pas non plus le refuser. On peut se dire, il est nécessaire, dans un monde qui se rétrécit de plus en plus, qui s'uniformise de plus en plus, on peut le regretter, il est nécessaire que des populations, comme celles qui n'ont pas encore cette civilisation, qui ne sont pas encore développées de ce point de vue-là, il est nécessaire qu'elles s'y adaptent pour pouvoir survivre. Mais ce n'est pas toujours vrai. Et je peux vous donner le cas d'une population qui a été découverte dans les Philippines en 1968, qui s'appelle les Tasadai. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est assez extraordinaire. Je ne peux pas raconter l'histoire,
elle est très
longue. Non, ce sont des petits groupes de 25 qui habitent très exactement comme du temps de la pierre taillée. Très exactement de la pierre taillée. Bon, je ne peux pas entrer dans le détail, mais ce sont des hommes de l'époque de la pierre taillée. Eh bien, le gouvernement philippin, d'une façon très intelligente, a interdit qu'on y aille. On a autorisé une expédition ethnologique de s'y rendre. Un point, c'est tout maintenant, on n'y retourne pas.
Alors justement, la question peut se poser. Vous pouvez y répondre vous-même. Auriez-vous fait comme le gouvernement philippin?
Sans aucun doute.
Interdiriez-vous à des gens d'y aller? On doit laisser ces gens-là dans cet état.
Absolument. Pourquoi?
Parce qu'il faut les protéger de tout ce que, dont nous souffrons.
Il faut les protéger de tout ce que nous souffrons, tout ce que nous pouvons leur apporter de mauvais, etc. Mais surtout, une grande chose qui me paraît essentielle. Ils sont heureux ainsi. Et nous ne le sommes pas. Et ça, je peux vous donner un exemple qui me paraît extrêmement important.
Et ce bonheur, vous le voyez
Les Esquimaux. Chez les Esquimaux, ils mouraient de faim. Ou ils avaient froid tout le temps. Etc, etc.
Ou ils tuaient.
Ces hommes étaient heureux, pourquoi? Parce qu'ils avaient peu de besoins. Et par conséquent, ayant peu de besoins, il leur arrivait, assez fréquemment finalement, de les satisfaire tous. Donc ils étaient heureux. Maintenant, on leur apportait des tas d'autres besoins comme nous, superflus. Ils ne peuvent pas les satisfaire tous, donc ils sont insatisfaits, donc pas heureux.
Donc ils en voudront plus. Et c'est pour cette raison qu'il y a ce réveil de la fierté esquimaux, comme il y a un réveil de la fierté bretonne, la fierté occitane, la fierté corse, enfin de d'autres fiertés.
On le retrouve chez les esquimaux tout autant. Et en particulier chez les jeunes, il n'y a pas de doute.
Mais est-ce qu'on ne finit pas par faire, d'une certaine manière, un racisme stupide?
Je ne crois pas que ce soit nous qui fassions un racisme stupide. Je ne crois pas que ça provoque un racisme. À partir du moment où ce qu'on appelle en France la régionalisation, imaginons cela, et c'est à mon avis la seule possibilité de survie et de vie de l'Europe, c'est-à-dire que chaque région prenne conscience des racines qui l'attachent à un sol et à des gens, et non pas noyé dans un ensemble. Si cette régionalisation se développe, et elle se développera, que ce soit celle-là, celle des Esquimaux, celle des Tahitiens, celle des Tassadaï, n'importe, à partir de ce moment-là, ce ne sera plus un racisme. Ce sera une mosaïque, mais ce ne sera plus un racisme. Qu'est-ce que c'est que le racisme? C'est considérer une race, la sienne, comme supérieure à une autre. C'est la grande histoire du nazisme. C'est une entropie, c'est exactement ce qui arrive chez les animaux, à savoir la loi du plus fort. Ben non, c'est dans un pays civilisé, dans une civilisation, ce n'est pas la loi du plus fort qui prime. Et tout ce qui empêche cette civilisation d'évoluer vers un éloignement de la loi du plus fort, c'est-à-dire lutter contre l'entropie animale. Tout ce qui empêche cet éloignement est une régression. Le nazisme en est le cas le plus typique.
En revanche, il est tout à fait nécessaire de revenir à ses sources, où que l'on soit, qui que l'on soit.
C'est mon avis. Et alors, je pense que c'est la seule façon en France de s'en sortir et en Europe de s'en sortir, de se sentir européen, mais pas nationaliste français ou raciste, tout ce qu'on voudra, mais de telles régions, jurassiens par exemple, enfin franc-comtois, mettons.
Comme vous l'êtes. Mais Paul-Émile Victor, vous êtes quand même d'une certaine manière en contradiction avec vous-même. Et par rapport à deux dates, celle de 1953 et celle d'aujourd'hui, 1977. Car en 1953, vous écrivez une histoire sur la famine en Groenland en 1883, je crois, ou 82. Et puis, vous faites paraître un livre chez Julliard à l'époque. Aujourd'hui, vous faites paraître un deuxième livre, qui est le même d'ailleurs, Les survivants du Groenland, c'est-à-dire quelques 30 ans plus tard, et vous n'avez plus les mêmes idées. La preuve, pour celui de 1953, vous avez fait une préface en disant « Ce livre est dédié aux Danois, à tous les Danois qui ont donné au monde l'exemple d'une colonisation entièrement altruiste et désintéressée, celle du Groenland. » Et puis 30 ans plus tard, vous étonnez de ce que cette indépendance, de ce que ce progrès a fait des Esquimaux. Alors vous êtes en contradiction, mais c'est la vie qui est allée, vous ne l'aviez pas prévu.
Si vous voulez, mais si vous permettez, je ne suis pas de votre avis.
Je vous permets de ne pas.
Je ne crois pas du tout que je sois en contradiction. Oui. Je continue aujourd'hui, malgré les erreurs faites, de penser que les Danois ont fait quelque chose que les autres n'ont pas fait. Par contre, et je le dis dans la deuxième partie de cette préface, dans ce livre qui décrit en effet deux années de famine consécutives avec des histoires de survie absolument
hurlantes. C'est un livre vraiment d'aventure. Ouais. On n'y croit pas. Et cela pose une question, la grande question, de quoi un homme est-il capable pour survivre? Car dans votre livre, pour cette famine, ils font tout. D'abord, les mères tuent leurs enfants. Ensuite, les survivants mangent ceux qui restent. Remarquez, rappelez-vous, l'histoire très récente de la cordillère des Andes.
Oui, on n'y croit pas, et pourtant ce sont des histoires vraies. Hein. Comme ethnologue, j'ai récolté toutes ces histoires et j'ai donc écrit ce livre. Bon, je reviens donc à ce que je disais, il n'y a pas de contradiction du tout. Je continue à penser que les Danois ont fait un effort, comme nulle part ailleurs, comme personne d'autre dans une colonie, pour essayer de comprendre et essayer d'adapter. Je continue à dire ça. Donc, entre ça, ce que j'ai écrit en 1953 et 20 ans plus tard, que je pense la même chose, il n'y a donc pas contradiction. Par contre, ce qui m'a frappé et ce qui m'a attristé, c'est de constater au cours de ces 20 ans, et malgré l'effort des Danois, que les Danois ont fait un certain nombre, à mon avis, d'erreurs, et ils ne sont pas les seuls, les Canadiens au Canada, Arctique, les Américains en Alaska, nous ailleurs, un certain nombre d'erreurs en appliquant ce que nous disions tout à l'heure, des solutions d'hommes blancs à des civilisations qui n'en avaient que faire. Des erreurs comme par exemple de construire des maisons en bois dans un pays où il n'y a que de la pierre.
Construites par des Danois.
Et construites par
qui venaient du Danemark.
Qui venaient du Danemark. Et ce qui a eu ce résultat ahurissant dans la côte est chez les Angmas et les Miut, ceux chez lesquels j'ai donc vécu, c'est qu'il y a eu un jour une belle tempête qui s'appelle le Pit-Tarak. Il y en a eu comme ça depuis des milliers d'années. Il ne s'est jamais rien passé. Et ben, cette année-là, toutes les maisons en bois construites par les Danois pour les Esquimaux de la côte est du Groenland ont été enlevées. Et les pauvres gars, les familles, au cours de l'hiver, l'hiver et de la nuit, ils ont dû faire des trous dans les planchers pour vivre dans le dessous, pour éviter d'être emportés par la tempête.
Oui, mais Paul-Émile Victor, vous dites bien qu'il y a maintenant des HLM à l'endroit où il y avait des huttes autrefois. Oui. Vous dites encore que les Esquimaux ne se contentent pas d'un lit, ils préfèrent coucher par terre. Il ne faut pas oublier que c'était en 1953 et que 77, cela fait 24 ans après. Cela fait un garçon de 24 ans qui a peut-être pris goût à cette vie. À cette vie de progrès. Alors, êtes-vous le même vous-même, est-il...
Oui, je ne suis certainement pas le même qu'il y a 25 ans, ça c'est évident. Quant à ceux dont vous parlez des jeunes Esquimaux de 25 ans d'aujourd'hui.
Oui, comment sont-ils
Ah ben voilà.
Ils acceptent.
Ils acceptent, c'est-à-dire que... Ça, d'abord, à mon avis, c'est une race très intelligente. On peut définir l'intelligence, il faudrait la définir pour savoir ce qu'on dit.
Ce sera difficile.
Il y a des imbéciles qui ont des parts d'intelligence.
Oui. Très nombreuses.
Oui. Non, ils sont intelligents, ils comprennent vite. Les relations de cause à effet, on peut appeler ça l'intelligence, chez eux, c'est immédiat, ils pigent ça tout de suite. Bien, les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes de 20 à 25 ans, les Esquimaux d'aujourd'hui, ce sont des garçons qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils sont beaucoup plus intelligents que certains de nos écologistes, entre guillemets, qui disent qu'il faut revenir en arrière, arrêter la civilisation, etc. C'est parfaitement stupide, c'est impossible.
Vous n'aimez pas les écologistes, vous.
Si. Moi, j'en suis. Enfin, oui, encore faut-il s'entendre sur le mot écologie. Non, mais encore faut-il s'entendre.
Ethnologue, plutôt.
On est en train de dévier. L'écologie est une science. N'importe quel gars qui, pendant quelque temps, a défendu la nature, dit qu'il est écologiste. Non, c'est une science. C'est un défenseur de la nature, le gars qui fait ça. Je reviens donc sur mes Esquimaux. Eh bien, ils acceptent, non seulement ils acceptent, mais ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas revenir en arrière. Par contre, comme je le disais tout à l'heure en ce qui concerne les régions, ils savent, ils sentent, que s'il ne veut pas être noyé dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire ne pas devenir des Danois du Nord... Ce qu'ils sont, aujourd'hui, il est nécessaire qu'ils retrouvent des racines qui soient esquimaux, c'est-à-dire une façon de penser et même une certaine façon de vivre, mais sans pour cela tout repousser de la civilisation actuelle, occidentale, mais en n'en prenant que ce qui leur est véritablement utile.
Parce qu'être esquimau, c'est une façon de vivre, c'est un état d'esprit, c'est un climat.
C'est un état d'esprit et c'est une façon de vivre. Or, aujourd'hui, un esquimau, je ne parle pas d'un Groenlandais ou d'un Canadien arctique ou d'un Américain d'Alaska, un esquimau ne peut plus vivre comme il vivait avant. Pas plus que nous ne pouvons vivre comme nous vivions il y a 150 ans. Par contre, nous pouvons avoir des sentiments, des sensations, des connaissances d'une certaine vérité qui est la nôtre et qui nous différencie des autres, et c'est ce qu'ils sont en train de rechercher. Dans leur langue, dans leur façon de vivre, c'est-à-dire remettre à la chasse, non pas seulement à la chasse du dimanche, mais la chasse à l'honneur, ne plus être, ou de moins en moins être, s'ils le peuvent, des fonctionnaires, donc des assistés, etc., etc.
Alors on en revient à ces survivants du Groenland, plutôt à ces années de 1882-1883, ce sont les deux terribles années, c'est l'épouvantable famine, et c'est le drame, et c'est là qui est important et qui est grave, c'est le drame qui porte l'homme aux dernières extrémités. L'homme peut aller jusque-là, jusqu'à l'horreur.
Il me semble que, avec l'exemple de cet accident d'avion dans les Andes, il y a un point commun profond entre
Nous autres, qui aurions pu être dans cet avion, il ne faut pas oublier que...
On aurait pu le faire.
Ah, moi je l'aurais fait, sûrement, et je suis sûr que tout le monde l'aurait fait. N'oubliez pas que ces garçons étaient tous catholiques, pratiquants pour la plupart. Bon, dans un avion ordinaire, la majorité ne l'est pas. Là, il se trouve que c'était tout un ensemble, tout un groupe sportif.
Vous m'auriez mangé.
Ah, j'aurais pas hésité à manger, ou j'aurais espéré, si j'étais mort, que ma femme me mange. Au moins que ça serve à quelque chose. Déjà, à quoi ça sert, la mort? À rien. C'est une connerie, si j'ose m'exprimer.
Que quelqu'un vive.
Mais oui, au moins qu'on serve à quelque chose. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'instinct général de l'homme? C'est rien d'autre que la survie. À quoi est destiné l'homme? Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on se trouve dans une situation instable, incompréhensible. Les grands-parents, enfin, mettons, les aïeux, sont là pour garantir ce que toujours a été la famille. Les parents sont là pour transmettre. Et les enfants sont là pour recueillir, pour pouvoir faire la même chose. À partir du moment où les grands-parents ne comptent plus, que les parents ne sont plus là pour transmettre, il n'y a plus de racines. Je ferme ma petite parenthèse. Mais pour revenir à ce sujet-là, la survie, c'est ça la survie. C'est-à-dire se transmettre la vie jusqu'à ce que finalement il n'y ait plus d'hommes. Cette survie-là, cet instinct de survie, que nous soyons catholiques ou protestants, ou n'importe quoi, esquimaux ou sud-américains ou français, l'instinct de survie est plus grand que toute morale.
Survie, c'est se donner.
Survie, c'est assurer la survie, non pas la sienne, mais celle de sa famille, de ses hommes, de sa race, en quelque sorte.
Mais c'est le fond de la condition humaine.
C'est très exactement le fond de la condition humaine. Et lorsque les religions chrétiennes ont par exemple banni, on dit que l'acte d'amour est un péché en dehors du désir de procréer, à mon avis c'est une hérésie, mais c'est tout de même basé sur une chose principale qui est de donner la semence de vie pour qu'on continue. Les animaux, c'est la même chose. Nous sommes, après tout, nous ne sommes pas rien d'autre que
d'ailleurs,
des animaux.
D'ailleurs, Paul-Émile Victor, soyons tout à fait francs, devant la mort, il n'y a pas 20 espèces d'hommes. Il n'y en a qu'une. Mais il faut aller encore plus loin. Il en est de même devant la vie.
Alors là, je voudrais bien savoir ce que vous voulez dire avec ça, parce que je suis bien d'accord avec la première partie que vous avez dit.
Je crois que les hommes,
d'égalité que dans la mort.
Ah, d'égalité, oui.
Il n'y a d'égalité que dans la mort. Le clodo...
Ah oui,
qui meurt, c'est un homme qui meurt exactement avec autant de valeur que le roi, l'empereur, le président de la République, vous ou moi, quand nous mourons. Nous sommes égaux devant la mort. C'est d'ailleurs la seule chose, à mon avis, dont on soit sûr, c'est cette égalité-là. Il n'y a pas tellement longtemps, je me suis amusé à parler, à penser un petit peu à cette question de la mort. Et il me semble que il y a plusieurs espèces de mort. D'abord... Il y a la mort subie, pas subite, mais subie, qui est évidemment une humiliation, c'est celle dans son lit. Nous sommes tous dans un fauteuil éjectable dont le bouton est dans la main de quelqu'un d'autre. C'est pas amusant tout de même de penser qu'on peut vous éjecter n'importe quand, mais on ne sait pas quand. Ça, c'est la mort subie, elle est humiliante. Il y a la mort choisie, voulue.
On peut presser sur
l'action,
le bouton.
L'action, où on peut presser le bouton. On n'est pas sûr de l'avoir, le bouton, parce que l'autre, là, celui qui est derrière, il pressera peut-être avant que vous ne pressiez. Mais c'est une mort choisie, voulue, Monterland, Hemingway. Et puis, il y a la mort fuite, pour laquelle il faut beaucoup de courage. Le suicide, fuite. On fuit un problème. On préfère disparaître plutôt que de ne pas pouvoir vivre avec la femme qu'on aime ou faire face à une dette de 300 ou 400 millions, par exemple. Ça, c'est une fuite. Elle est inadmissible. On dit qu'il faut beaucoup de courage. Je pense qu'il faut beaucoup de courage. Mais on ne se suicide pour une fuite que si le courage de survivre est plus grand que le courage de se donner la mort. Donc c'est une fuite dans tous les cas, et dans tous les cas c'est inadmissible. Je ferme ma petite parenthèse sur la mort, mais c'est une chose qui, sans me turlupiner beaucoup, est une chose à laquelle j'ai pas mal pensé ces derniers temps. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui nous a amené là. Plus qu'avant, ben bien sûr, plus qu'avant. Enfin, j'ai 70 ans cette année.
Ça n'est pas le bout d'un itinéraire.
Je suis plus un jeune homme. Ah non, j'ai 20 ans en réalité. J'ai 70 ans sur le papier. Je suis né en 1907. Alors si vous additionnez tout, ça fait 70 ans. On n'a pas la date de l'âge de sa date de naissance. On n'a pas d'ailleurs non plus l'âge de ses artères. C'est pas vrai. C'est pas l'âge de ses artères que l'on a. C'est l'âge de son enthousiasme.
De son cœur.
De son cœur. Oh ben, le cœur, lui, vieillit jamais. C'est tellement stupide, mais c'est comme ça. À 70 ou à 80 ans, on tombe amoureux exactement de la même façon qu'avant.
C'est que vous êtes tombé amoureux. Hein.
On souffre. Alors, oui, je suis amoureux de ma femme. Oui. Et ça depuis déjà pas mal de temps. Non, alors pour revenir donc à ce que je disais, à 70 ans, on pense tout de même à un certain nombre de choses. Je suis arrivé à la conclusion que l'essentiel, le principal, c'est, bon, il vaut mieux avoir de bonnes artères, bien sûr, mais le principal, c'est d'avoir toujours sous la main, à chaque instant, disponible, un petit enthousiasme. Avec ça, on ne vieillit pas.
Mais je veux vous dire, Paul-Émile Luctor, pour que vous avez cet enthousiasme, c'est que cet enthousiasme a été mûri par beaucoup d'années d'aventure, avec toujours un grand A, beaucoup d'années enrichies par une passion, par un métier, par des amours à la chaîne, une litanie d'amour. Il faut penser à ceux qui n'ont pas eu toute cette chance, et qui sont arrivés à 70 ans sans avoir ce passé qui permet de réfléchir sur les choses.
Je pense que vous avez raison. J'aime pas le mot chance.
Non, c'est vrai.
Ça existe.
La chance, il faut la travailler.
Ouais. Oui. Ça existe, la malchance. Il n'y a pas de doute. Moi, je connais des garçons. Bon, l'exemple que je vais donner n'est pas celui que je connais, mais des garçons qui étaient faits pour l'aventure et qui, pour des raisons, par exemple, d'obligation familiale, parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir faire vivre leur vieille mère, par exemple, bah, toute leur vie, ils ont fait quelque chose qu'ils n'ont pas pu. Et ils n'ont pas pu changer. Parce que s'ils avaient changé, ils n'auraient pas eu ce qu'il fallait pour faire vivre leur vieille mère. C'est vrai. Mais en réalité, c'est beaucoup plus rare qu'on ne pense. En réalité, la majorité, je suis persuadé que la majorité des gens qui n'ont pas de chance, entre guillemets, c'est que, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des assis. Ils sont assis et disent, ah, je suis fait pour, je ne sais pas, mettons l'aventure. Alors, l'aventure, elle passe devant elle comme ça. Mais ils n'ont même pas le courage de tendre la main pour la ramasser. Pourquoi ?
Manque de
curiosité.
Parce
qu'ils ont la trouille. Ouais. Mais non, ils ont la trouille. Vraiment. Ils ont la trouille de couper. Il y a des moments où il faut savoir sortir le couteau qu'on a là et puis couper les sustantes quand on saute en parachute.
Et Paul-Émile Luctor, il faut également préciser quelque chose sur le rôle de l'aventurier. Il ne faut pas penser qu'on peut aller n'importe où comme ça. C'est qu'il faut y être préparé. Si on regarde d'un peu près votre carrière, vous avez d'abord fait des études, vous êtes ingénieur, une licence de sciences, vous avez passé tous vos brevets pour être officier de marine, c'est-à-dire savoir comment on voyage. Car lorsque le père Charcot vous a entraîné sur le pourquoi pas, il a essayé de vous faire comprendre qu'il fallait dans la vie être très armé. Rien n'est facile, on pense qu'on peut aller n'importe où avec rien, il faut un bagage d'abord. D'ailleurs, c'est beau le mot bagage. Lorsqu'on dit dans nos campagnes, ce garçon a un certain bagage.
Il faut un bagage pour la raison, et on peut toujours l'avoir. Ouais. Faut pas venir nous raconter que, oh ben non, moi, ma famille, j'ai pas pu, j'ai dû travailler. C'est pas vrai, c'est plus vrai aujourd'hui. C'était peut-être vrai il y a 50 ans, quand moi j'étais un môme. Mais aujourd'hui, ça n'est pas vrai. Jusqu'à 16 ans, on peut travailler, mais il faut travailler, il faut apprendre. Pourquoi ? C'est essentiel. Parce que plus on a de bagages, plus l'éventail de choix est grand. Moins on a de bagages, plus l'éventail se referme. Et finalement, quand vous arrivez à l'âge d'adulte, si vous ne savez rien faire d'autre que de nettoyer les cabinets, j'allais dire autre chose, mais je n'ai pas osé, eh bien, on vous fera nettoyer les cabinets parce que vous ne savez rien faire d'autre. Et alors, vous allez commencer à pleurnicher en disant « Cette société est impossible, etc. » C'est pas vrai, c'est pas la société qui est impossible. C'est vous qui n'avez pas fait ce qu'il faut pour que cette société, qui vous donne des opportunités que nous n'avions pas, nous, il y a 50 ans, pour que cette société vous offre ces opportunités, à condition que vous soyez capable de les remplir.
Mais Paul-Émile Luctor, vous seriez capable aujourd'hui, comme vous le dites, à 70 ans, de repartir pour une autre aventure. Vous pouvez repartir pour le Groenland ?
Mais c'est pas que je peux, d'abord. Je repars pour le Groenland. Je repars en pôle sud, dans l'Antarctique, tous les ans, régulièrement. Ben, je vais vous raconter une anecdote, tout de même. Ou une anecdote. J'ai inventé, un peu comme l'histoire du mandarin, une histoire qui est la suivante. Et je pose la question, et je vais vous la poser. On va voir ce que vous allez me répondre. Si demain matin, on vous proposait d'aller sur la Lune, avec une chance sur 100 d'en revenir, vous iriez ?
Moi, je suis fou, moi.
Vous iriez ?
Oui.
Ben alors, serrez-moi la main.
Attendez.
Parce que
moi aussi. Oui, mais nous sommes des fous.
Non, nous ne sommes pas des fous. Ce sont les autres qui sont des fous. Moi, je partirai sûrement parce que l'aventure, c'est pas fait pour être racontée. Si on peut la raconter après, tant mieux pour les autres et tant mieux pour soi. Mais l'aventure, elle est là. Je veux dire par là que nous ne sommes pas des fous. Les autres sont des fous en ce sens qu'ils ne prennent pas avantage des occasions qui se présentent à eux pour avoir une vie passionnante. La vie, est toujours passionnante quand on sait la regarder comme telle. Il y a trop de gens qui regardent la bouteille à moitié vide au lieu de la regarder à moitié pleine. Là encore, je voudrais vous raconter une anecdote. J'ai le temps ?
Oui, bien sûr, on a tout le temps.
J'étais d'abord attaché naval adjoint dans les pays scandinaves. Je suis rentré en France. En octobre 40, je suis sorti de France. Ça ne me plaisait pas. Je voulais aller en Angleterre. J'ai abouti aux États-Unis. Je fais d'une longue histoire une courte histoire. Je me suis engagé dans l'aviation américaine comme simple troufion. Je parlais pas très bien l'anglais, pas trop mal, pas très bien. Un troufion dans une armée de 12 millions d'hommes, dans un pays que je ne connaissais pas, avec une langue que je parlais pas bien. J'ai pas besoin de vous dire que, comme par-dessus le marché, pendant 5 mois, j'ai rien foutu, qu'on m'a mis à Washington pour d'abord vérifier si j'étais Vichy French ou De Gaulle French, le moral, il était pas bon. Et un matin, à 3 heures du matin, je suis allé au Central Station à New York, là où on allait quand on savait pas faire autre chose, comme troufion, le USO, United Service Organization, où on vous donnait du café, au lait, etc. Et bon. C'est ce que c'est les donuts. Les donuts, c'est une espèce de pâte sous forme d'un petit pneu avec un trou au milieu. C'est très bon. Pâte à beignet. Je lève les yeux et au-dessus de ma tête, il y avait une grande affiche. D'un côté, il y avait un troubadour qui était gros, rebondi, réjouissant et qui regardait un donut qui avait un tout petit trou au milieu. Et de l'autre côté, il y avait un troubadour, mince comme un fil, verdâtre, qui avait l'air vraiment complètement désespéré, qui regardait le même donut, mais il avait l'air d'un petit fil de fer avec un énorme trou au milieu. Et dessous, il y avait écrit « As you get along in life, look upon the donut and not upon the hole ». Ça veut dire « Dans la vie, regardez le donut, regardez donc pas le trou ». Eh bien, ça m'a remonté le moral et j'y ai pensé depuis et j'y pense encore aujourd'hui. Eh bien, la majorité des gens ne savent pas regarder la bouteille à moitié pleine. Ils finissent toujours... Ils sont des pleurnichards.
Enfin, c'est une leçon d'enthousiasme que vous donnez. Vous dites, surtout, partez.
Je cherche surtout pas à donner une leçon quelconque. Hein.
Non, donner le conseil de ne point en donner, c'est déjà pas mal. Mais enfin, il faut dire des choses. Moi, je voudrais savoir une chose, Paul-Émile Victor. Est-il vrai que le pôle a été découvert il y a 2000 ans par les Grecs, non pas parce qu'ils y sont allés, mais par simple déduction, parce qu'ils sont intelligents?
Oui, alors, là, c'est encore d'une longue histoire. Je vais faire une
Mais non, mais
histoire.
C'est vrai.
C'est-à-dire que les Grecs sont tout de même montés depuis, il y a plus de 2000 ans, il y a près de 4000 ans, vers le nord, et ont découvert là-bas une population qu'ils appelaient des Arimaspes, qui vivaient dans un pays de jour éternel, et où la mer et le ciel se confondaient dans une grisaille générale, et où, en poussant un peu plus loin, la mer prenait la consistance, une consistance lourde. C'est l'Arctique. Ils savaient donc qu'en allant vers le nord, on allait vers des régions froides. Connaissant la rotondité de la Terre, ils en avaient déduit que de l'autre côté de l'équateur, il y avait des terres comme dans l'hémisphère nord, et que tout à fait à l'autre bout du monde, il y avait des terres froides, Antarctos. Arctos, c'est ce que c'est Arctos. L'Arctique, Arctos, c'est le mot grec pour dire l'ours, à cause de la constellation des petits ours, et Anti-Arctos, c'est de l'autre côté de l'ours. Également une population froide. C'est donc à peu près ce qu'ils avaient, sans jamais y être allés, deviné par esprit de symétrie.
Alors nous parlons tout à l'heure de ces progrès qui sont réalisés dans ce pays que vous aimez, qui est le Groenland. Y a-t-il encore là-bas des ours, des renards, des bœufs musqués, enfin un ensemble de choses qui font une faune?
Il y en a beaucoup. Je peux vous raconter encore une anecdote. J'ai un ami qui s'appelle le père Marie Rousselière, qui depuis 18 ans est à Ponds Inlet, je crois, dans le nord de Baffin. Il y a à peu près 2 ans, pas tout à fait 2 ans, il est venu me voir et il me disait, dis donc, vous connaîtriez pas un truc pour éloigner les ours? Depuis 10 ans, la chasse à l'ours blanc est interdite. Maintenant, il commence à nous embêter sérieusement. Il vient de farfouiller dans nos poubelles, devant nos tentes. On ne sait pas que faire pour qu'il ne vienne pas nous embêter. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, tout en bavardant avec lui, il nous est venu l'idée, je ne sais pas à l'un ou à l'autre, d'essayer, vous savez, cette poudre jaune que l'on met le long des trottoirs pour que le chien ne pisse pas n'importe où. Et il m'a écrit quelques mois plus tard en disant que ça marchait. C'est vous dire que les animaux, que ce soit les ours, que ce soit les morses, etc., les animaux polaires, il y en a beaucoup aujourd'hui, il y en a encore beaucoup. Nous n'allons pas, je l'espère, vous n'allez pas me poser de questions sur le massacre des petits fours blancs, parce que ce serait beaucoup trop long, et puis c'est encore une histoire journalistique.
Alors, cela est parti en 1934, votre aventure, l'expédition, il y a, on le sait, l'expédition polaire française, mission Paul-Émile Victor, on sait tout ce que vous avez pu faire, le nombre de voyages
que vous avez organisé là-bas. Vous sautiez même en parachute.
J'étais parachutiste pendant la guerre.
Vous aviez toute votre armée d'avions, de bateaux, mais cela, on le sait. Ce qui m'amuse, moi, maintenant, c'est votre nouvelle idée, parce que vous n'en finissez pas d'avoir des idées. Un jour, vous avez décidé de transporter, enfin de véhiculer à travers les mers, les icebergs pour les offrir à l'Arabie Saoudite. Alors là, je ne comprends plus. Vous allez monter une nouvelle opération pour donner de l'eau à l'Arabie qui en manque. Oui. Alors quel est cet étrange voyage? D'abord, est-ce possible ou est-ce un roman?
Bon, alors, je répondrai tout de suite à votre dernière question. Est-ce possible ou est-ce que c'est un roman? Je dirais d'abord que si c'était pas possible, je me serais pas lancé dans cette aventure. Ça fait maintenant un certain nombre d'années, 40 ans, que je m'occupe d'aventures diverses qui ont toutes jusqu'à présent bien réussi. L'expédition polaire française, ça marche bien.
C'est les aventures vraies.
Les vraies aventures qui marchent bien et qui marchent, qui sont solides. Premier point. Donc, je ne me serais pas lancé là-dedans. Donc, réponse, oui, c'est faisable. La chose nous est venue à un de mes amis qui s'appelle Georges Mougin, à moi, il y a une vingtaine d'années à New York, quand nous sommes aperçus qu'on ne nous mettait même pas de l'eau sur la table à boire parce qu'il manquait d'eau à New York. Or, la grande réserve d'eau du monde, elle est sous forme de glace, d'eau douce, j'entends. Elle est sous forme de glace. 99% de toute l'eau douce du monde est sous forme de glace. Et 1% est sous forme liquide. Toutes les rivières du monde, tous les lacs du monde,
c'est le 1%.
L'eau douce du monde, c'est 1% de l'ensemble de l'eau. Bon, il faut que je donne tout de même un chiffre, je l'ai déjà donné, mais ça ne fait rien, ça vaut la peine parce que la plupart des gens ne le savent pas. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'eau sur la Terre, hein, quand on regarde une map monde ou un globe. Effectivement, les deux tiers de la surface de la Terre, c'est de l'eau. Mais en volume. Si la Terre a la forme d'une orange, toute l'eau du monde, c'est une goutte d'eau. Toute l'eau. Et c'est 1% de cette goutte d'eau qui est de l'eau douce. Et de cette minuscule quantité d'eau douce, 1%, c'est-à-dire un 1/10 de l'ensemble, c'est de l'eau sous forme liquide. Et 99%, c'est de la glace, dont 90% dans l'Antarctique. Alors il était logique de penser que le jour où il n'y aura pas assez d'eau, il n'y en a déjà pas assez.
C'est drôle pour dire « il était logique », vous faites comme si vous étiez fou.
Pour moi, le signe de mettre les deux doigts, ça veut dire « ça vient de l'esprit, ça vient de la tête, ça vient de la réflexion ». Évidemment, ça paraît un peu dingue, c'est vrai, mais je crois que je ne suis pas dingue.
Alors, vous allez faire comment? Bon, j'imagine, ces gros blocs de glace...
Alors, d'abord que je vous dise une chose. Premièrement, avec les techniques déjà existantes, c'est réalisable, sans avoir besoin de faire autre chose qu'un bateau un peu plus adapté, avec plusieurs hélicoptères, pour, etc., etc. Je ne vais pas entrer dans le détail. C'est réalisable avec les techniques, la technologie existante. Ensuite, sur le plan économique, toutes choses étant égales par ailleurs, donc comparables, 1 m³ d'eau provenant d'un iceberg coûte la moitié du prix de revient d'un 1 m³ d'eau provenant du dessalement de l'eau de mer. Et troisièmement, les usines d'installation dessalement d'eau de mer sont des usines terriblement polluantes et qui révolutionnent sur le plan social la vie des gens parce que ce sont des pêcheurs, ce sont des nomades qu'on oblige de devenir, auxquels on oblige de devenir, de faire des travaux d'ouvriers. Tandis que l'iceberg, ça ne révolutionne rien et il n'y a pas de pollution.
Alors, combien de jours de voyage pour aller du Groenland à l'Arabie?
Pas du Groenland.
Enfin, de l'Antarctique.
Oui, de l'Antarctique. Parce que les icebergs de l'Arctique ne sont pas convenables.
Vous allez me dire si je me trompe. On prend un bloc de glace qui couvre quelques hectares, je ne sais plus combien.
Ouais, enfin, 100 millions de mètres cubes.
Oui, pas mal.
C'est-à-dire 100 millions de tonnes.
Alors, il y a un bateau à droite, un bateau à gauche qui tire. On a Mayotte, paraît-il. Il paraît qu'on fait comme pour un bébé.
Exact. Hein? C'est-à-dire qu'en réalité, le principe... Combien de temps avons-nous encore maintenant?
Vous avez 5 minutes pour me raconter ça.
5 minutes. Bon, alors je vais raconter ça en moins de 5 minutes parce que vous aurez encore une question à me poser après. Le principe, c'est de mettre ce morceau de glace dans une boîte avec de l'eau douce autour, froide. Ben, vous ne pouvez pas construire une boîte 1,5 km de long et de 300 mètres de large et de 300 mètres de profondeur non plus. Donc, on fait une approximation. Mm-hmm. On couvre... Le Groenland, vous voyez ce que je suis obsédé par ça.
Le bloc.
On couvre l'iceberg par un lac artificiel, ce qui empêche la fonte de ce qui est dessous. On l'enveloppe par une jupe de matière plastique très épaisse, plastique, feutre, etc., dans laquelle, c'est-à-dire entre elle et l'iceberg, il se produit une couche d'eau douce froide. On met par-dessous une sorte de couverture, mais par-dessous qui est appliquée par des boudins d'air. Et vous avez ainsi approximativement cette cuvette. Puis, le remorquage se fait de façon normale, et dans les conditions les meilleures, c'est-à-dire si, telles qu'on arrive là où on a besoin de l'utiliser, il ne sera fondu à peu près que 20% de l'ensemble. C'est-à-dire que sur 100 millions de mètres cubes, qui est un chiffre très raisonnable, 80 millions de mètres cubes, c'est-à-dire 80 milliards de litres, sont disponibles. Si au contraire, il faut couper l'iceberg en tranches, ce qui est possible pour passer certains seuils, comme le détroit de Bab-el-Mandeb, par exemple, ou El Mansour, eh ben on le coupe en tranches, on le remorque à billets, on le dispose le long de la côte où on a besoin d'eau. Il faut ajouter à ça que le climat changerait, le microclimat changerait, qu'une ville comme Jeddah, par exemple, aurait probablement sa température de 4 à 5 degrés de moins chaud en été, ce qui serait pas mal. Et chose étonnante, la quantité d'eau produite par l'iceberg serait plus grande que la quantité d'eau qu'il contient, cet iceberg, parce que l'humidité de l'air viendrait se condenser dessus et donnerait de l'eau.
Vous croyez à ce projet ?
Comment j'y crois ?
Mais les Arabes sont, je crois, très, très enthousiastes.
Ah, très enthousiastes de cette question.
Ils ont les moyens. Parce ben qu'il faut, oui, c'est il faut des bateaux, il faut des usines, il faut...
Le prince Mohamed Al-Faisal, qui s'occupe des questions d'eau et qui m'avait contacté pour ça il y a un an et demi, quand je lui ai dit, vous savez, ça risque de coûter cher, je ne savais pas à l'époque, parce que je n'avais pas fait les calculs, que ça coûtait finalement moins cher que des usines d'installation. Alors il m'a répondu en me regardant avec un petit sourire, « We can afford it », on peut se le payer, c'est certain ça, il n'y a pas de doute. Or l'eau est bien plus importante pour eux que le pétrole. Vous m'avez demandé si j'y crois. Eh ben, je vais vous dire.
Dans combien d'années ?
Ça c'est très simple.
À vous y croyez moment... ça se sent que vous y croyez.
Non seulement. Bon. Si nous ne le faisons pas, un autre le fera.
Oui.
Si ce n'est pas les Arabes, d'autres le feront. Si ce n'est pas maintenant, c'est un peu plus tard. Mais ça se fera. On remorquera un iceberg de l'Antarctique vers la ceinture de la soif parce que c'est une solution économique, faisable, non polluante pour avoir de l'eau douce. Alors je ne vois vraiment pas pourquoi on ne le ferait pas.
Paul-Émile Victor, tout à l'heure je disais que vous aviez de la chance, que vous aviez réalisé vos rêves d'enfant, mais celui-là...
C'est pas un rêve d'enfant, celui-là.
C'est
un rêve farfelu.
Non, pas farfelu, parce que vous me dites qu'il va se réaliser,
oui, bien sûr.
Et qu'il va aider l'humanité.
Dans un journal suisse, on disait « c'est un projet de dingue, point d'exclamation, Paul-Émile Victor est derrière ce projet
». Alors la question, êtes-vous dingue ? Remarquez, il y a une jolie
Écoutez,
pièce de
si,
dingue.
Si, oui, si vous pensez que les poètes sont dingues, alors je suis dingue.
Ouais. C'est bien d'être fou.
Je crois qu'il est absolument impossible de vivre bien, heureux. Heureux dans sa peau aussi, si on n'est pas un tout petit peu fou.
En plus, c'est la folie qui est créatrice.
Vous savez ce qu'a dit Paul Valéry, en particulier en ce qui concerne l'avenir. Seuls les fous et les poètes, dans la vue de l'avenir, ont quelque chance de ne pas se tromper. Et il a raison, car les techniciens, chacun dans leur technique, voit la chose sous un tout petit angle, eh bien, ça peut tomber à côté. Tandis que les poètes voient ça suivant un angle très large, et la vérité, finalement, se trouvera dans cet éventail-là.
Mais vous n'avez que 70 ans, Paul-Émile Victor.
Non, j'en ai 20, je vous ai dit.
Oui, c'est vrai, mais on peut se demander ce que vous allez inventer dans les 10 années qui viennent, parce qu'il va vous falloir de nouvelles raisons de vivre.
Ah ben, bien sûr,
parce que c'est déjà fini pour l'instant, l'iceberg, il est déjà inventé maintenant.
Il
n'y a plus qu'à le tirer.
Ouais, presque, enfin pas tout à fait. Le plus que, vous savez, Yaka.
Yaka,
chez les expéditions. Aux expéditions polaires françaises, nous avons une expression qui s'appelle la technique Yaka Faucon Taka. Yaka faire ça, Faucon fasse ça ou Taka faire ça. Avec ça, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions faciles.
Et lorsqu'on fait maintenant le bilan, on peut dire ma vie, une aventure.
Oui, mais je pense... Et...
Sans oser dire réussi.
Non, sans oser dire réussi, parce qu'elle n'est jamais tout à fait réussie. Vous me donnez une minute ?
Mais vous avez tout ce que vous voulez.
Non, je n'ai pas tout ce que je veux.
Enfin, vous m'avez demandé une minute, alors c'est une minute.
Vous n'avez pas posé une question que j'aurais voulu que vous me posiez, mais puisque vous ne la posez pas, c'est pour quelle raison est-ce que je me suis lancé alors que j'aurais pu... Vraiment, et que j'aurais droit vraiment maintenant à une vie un peu plus tranquille, me remettre avec ma femme et mon gosse qui a 5 ans, davantage de temps avec eux, me remettre à la peinture, au dessin, à la litho, toutes sortes de choses.
Il n'y a pas besoin de vous poser cette question, vous avez répondu pendant une heure à cette question.
Voilà. Mais pourquoi est-ce que je me suis lancé dans les histoires d'environnement qui me prennent maintenant tout mon temps ? Parce que j'estime que, quelle que soit la vie que l'on ait eue, aussi satisfaisante qu'elle soit, finalement, en définitive, on peut tout de même dire que j'ai une vie relativement satisfaisante sur le plan personnel. Il arrive un moment, quelle que soit cette vie, où il est nécessaire à l'homme, s'il ne veut pas mourir vide, zéro, de faire des actions, d'agir je ne veux pas utiliser des grands mots, mais dans un sens de bien public. Quel qu'il soit, que ce soit pour les enfants handicapés, ou que ce soit pour défendre les prisonniers politiques dans le monde, par exemple. Moi, j'ai pris l'environnement parce que c'est ce qui me paraît être le problème numéro un de l'homme. Mais ça, c'est indispensable, surtout aujourd'hui. Et si on ne le fait pas, et ceux qui ne le font pas, c'est-à-dire ceux qui se contentent de fabriquer leurs petits trucs, ils meurent. Ils seront des morts éternels. Alors que la seule façon, non pas de survivre, mais c'est d'avoir fait quelque chose qui a changé un peu l'homme.
Je crois que vous avez fait beaucoup de choses et que vous êtes changé vous-même, ce qui est déjà un très joli résultat.
J'en sais rien, je l'espère.
Merci Paul-Émile Victor. Je rappelle que nous étions aujourd'hui en direct de Monte-Carlo, où se déroule jusqu'au bout de la semaine prochaine le festival de télévision. Je vous rappelle également les rendez-vous de la semaine prochaine. Lundi, Yves Boisset. Mardi, Marcel Lotz. Mercredi, Simone Lacouture. Jeudi, point d'interrogation, et vendredi, Jacques Chirac. À lundi, bonsoir.